Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir l'articulation qu'il y a entre la décroissance et la démocratie directe. Quelle articulation il y a ? Est-ce que ça a un rapport ?
Voilà, c'est ça qui est compliqué.
La façon de relier, est compliquée. Compliqué, oui et non. Pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche. Mais quels sont les arguments qu'il faut aligner lorsque quelqu'un nous dit, mais attendez, bon, décroissance, ok. Bon, gérer en démocratie directe, pourquoi, quel est le rapport ? Alors, le rapport, déjà, c'est de dire, c'est le système d'organisation politique que nous proposons précisément pour gérer la décroissance inéluctable. Donc voilà déjà le rapport. Alors la question qui arrive après, c'est oui, pourquoi ce système-là et pourquoi un autre ? Bon, alors là c'est intéressant parce qu'il y a toute une série d'arguments qui sont plus ou moins forts ou plus ou moins valables les uns par rapport aux autres. Quand j'ai un premier argument, c'est pas que hiérarchiquement il est à placer parmi les premiers, c'est que c'est le premier qui me vient à l'esprit, c'est que on ne résout pas un problème avec le mode de pensée qu'il a créé. Bon, le problème c'est la croissance. Il y a un problème qui n'est pas soluble, qu'on ne peut pas résoudre, puisque nous disons que c'est une impasse, donc un problème qui fatalement doit être résolu, en tout cas traité, avec un mode de pensée forcément différent du mode de pensée qui a créé la croissance. Et là, le contradicteur pour dire, mais attendez, c'est un mode de pensée qui a créé la croissance, ou bien la croissance, elle s'est créée toute seule, comme ça, par l'opération du Saint-Esprit, parce que l'homme, il a ça dans ses gènes, etc., etc., etc. Et c'est là que, bon, on sort notre culture historique, et qu'on dit, la croissance, elle a été créée à partir des révolutions de la fin du XVIIIe siècle par la caste des marchands qui a pris le pouvoir. Ah, mais non, nous disent nos contradicteurs, non, pourquoi c'est 1789 ou 1815 ou 1848 la croissance, non, la croissance a commencé déjà à l'Antiquité, tout ça. Et là, on sort nos courbes. Là, on fait comme la horaire. Lui, il sort les courbes du pétrole. Nous, on sort les courbes de la croissance. On sort nos trois courbes. La courbe de la prédation, c'est-à-dire de l'utilisation des ressources naturelles finies, de moins 10 000 ans à 2020. On sort une deuxième courbe, qui est la courbe du PIB, c'est-à-dire de la valorisation de la production de richesses, de moins 10 000 ans à l'année 2020. Et on sort la courbe de la démographie, idem, de moins 10 000 à plus de 2020. Et on voit que ces trois courbes sont identiques, homothétiques, c'est-à-dire qu'elles sont pratiquement horizontales, c'est-à-dire qu'avec un sinus de 0,1 ou 0 epsilon jusqu'en 1850, et à partir de 1850, une asymptote qui se cabre sur l'axe des ordonnées pour atteindre des sommets, etc. Que la croissance croît et que nous, on dit que ça va redescendre. Bref, mais en tout cas, on prouve avec ces trois courbes que, à partir de 1850, alors bon, c'est une date conventionnelle, évidemment, c'est comme pour la révolution néolithique, ça ne s'est pas fait en un jour, mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que si la révolution néolithique, on estime qu'elle s'est étalée sur 3000 ans, la révolution industrielle, elle, ne s'est pas étalée sur 3000 ans, c'est étalée sur 10, 20, 30 ans, pas plus. Bon. Et c'est-à-dire que tout concorde, tous les pointages de prédation des ressources naturelles finies, des RNF, les évaluations de la production en termes de PIB et les pointages de démographie, ça concorde. Voilà. Bon. Donc, c'est bien à partir de cette date-là qu'on a eu le début de la civilisation, de la société complexe, industrielle, croissanciste. Et alors, oui, bon, ça c'est incontestable. Et alors, du coup, on regarde nos livres d'histoire et on dit, oui, il se trouve qu'à cette époque-là, c'est là qu'il y a eu des révolutions, une révolution, deux révolutions, un peu en Angleterre, en France, et puis ensuite ça s'est généralisé à toute la planète, où les systèmes d'organisation sociétale ont été modifiés en profondeur, que notamment le système monarchique, bon, a été remplacé par le système monocratique, a été remplacé par le système oligocratique, et que les segments de population qui étaient dépositaires de la fabrication des lois ont changé. C'était plus une aristocratie fondée notamment sur la propriété foncière et sur l'hérédité génétique, mais la caste des marchands qui Et donc c'est comme ça qu'on argumente et qu'on démontre que la croissance a été créée par une caste qui a changé le mode d'exercice du pouvoir et qui a créé le mode oligocratique. Voilà. Et c'est comme ça qu'on tente de démontrer la consubstantialité de l'oligocratie et de la croissance. Avec, l'oligocratie, le système politique qui génère un dispositif économique qui s'appelle le capitalisme et qui génère, disons, une constatation sociétale qui est la croissance. D'où notre analyse que l'oligocratie étant générateur et consubstantiel de la croissance, la décroissance inéluctable ne va pas pouvoir être gérée par l'oligocratie. Donc il faut autre chose. Et c'est là que nos contradictions disent « Ah ben oui, ah ben, cette autre chose, ça va être le retour à la monocratie, donc à la dictature. » Alors ça, effectivement, c'est l'objection la plus crédible à la proposition de faire gérer la décroissance par la démocratie directe. L'objection la plus crédible, c'est de la faire gérer par une dictature. Objectivement, c'est la... D'autant plus que les tenants de cette version ont des arguments qui est de nous dire que le système féodal, puis le système monarchique, était un système qui empêchait la croissance. Par toute une série de dispositifs, il y avait la quasi-interdiction du crédit porteur d'intérêt, il y avait les corporations de l'ancien régime qui empêchaient que les ateliers artisanaux grossissent, puisqu'on limitait le nombre de compagnons, etc., etc. Donc il y avait réellement, faut pas l'oublier, il y avait réellement des dispositifs anti-croissance très très puissants, sous l'ancien régime. Et c'est d'ailleurs pour ça que la caste des marchands, qui depuis un siècle et demi, subissait le joug de la monarchie, puisqu'ils avaient déjà commencé à prospérer avec les communications internationales, les Hollandais, les bateaux qui ramenaient des produits.
Oui, les commerces déjà.
Voilà, avec les grandes foires européennes qui se sont installées, qui ont enrichi les roturiers, c'est-à-dire la caste des marchands naissantes, qui sont devenus riches en pognon, mais qui n'avaient aucun pouvoir, puisque c'était encore les nobles qui... Et c'est donc eux...
Oui, avant l'impulsion, on commençait déjà à acheter les titres de noblesse, l'argent.
Ouais.
Oui, parce qu'ils n'avaient pas d'autre solution pour... Mais là-dessus est arrivé pour eux un levier beaucoup plus puissant, c'est le peuple. Le peuple qui a commencé à bouger et ils ont vu immédiatement l'opportunité qu'il y avait en utilisant la masse populaire de faire tomber la monocratie et mettre en place un système qui allait leur permettre de construire, de faire une construction juridique nouvelle leur permettre de développer leurs activités. Donc tout ça se tient et donc ce que nous avons nous à contredire, c'est pas le système oligocratique, parce que l'oligocratie n'a absolument aucun argument pour dire nous allons être capables de gérer. D'ailleurs, notre ami Yves Cochet le dit très bien. Tous les experts, les experts oligocratiques aujourd'hui, les économistes orthodoxes, ne seront pas capables de gérer les croissances, ils n'ont pas le logiciel. On apprend dans les écoles de pouvoir, que ce soit à l'ESSEC, à HEC, à l'IX, à Centrale, on apprend à gérer la croissance. On n'apprend pas à gérer les croissances. Voilà, bon, ils savent pas faire. Bon, et Janco le formule pas de façon aussi précise que Yves Cochet, mais il le dit d'une autre façon, hein, en disant ils sont tous nuls en énergie. C'est pas qu'ils sont nuls en énergie, c'est qu'ils sont nuls en décroissance. Voilà. Ouais. Et donc.
Et il ne faudrait pas corréler aussi justement la prise de pouvoir par l'oligocratie avec l'usage des énergies fossiles. Et le fait que les énergies fossiles et les ressources vont se raréfier, le mode de gestion doit changer en même temps.
Oui. Oui, c'est ce qu'on dit.
Ouais. Oui, non, mais il y a une liaison entre les deux quand même, malgré tout aussi.
Une liaison entre eux?
Entre la prise de pouvoir de l'oligocratie et le développement d'usage des ressources et de l'énergie fossile. Et le fait qu'on retombe, qu'il y ait moins de ressources, le mode de gestion associé doit tomber avec.
Ah ben, alors, l'oligocratie, c'est-à-dire la caste des marchands. Ouais. La caste des marchands voulait se débarrasser du carcan féodal pour pouvoir développer ce qu'elle avait envie de développer, elle avait commencé déjà, puisque le siècle des Lumières arrivait, et donc les innovations techniques, la machine à vapeur, Denis Papin, tout ça, bon, qui laissait entrevoir des possibilités de faire un certain nombre de choses en utilisant les ressources naturelles finies de façon intensive. Et ça, c'était une idée complètement nouvelle, une idée qui n'avait pas cours pendant tout le Moyen-Âge. Et d'ailleurs, une idée qui était très très mal vue par la monocratie. Bon. Donc, c'est lié, bien entendu. Lorsque la caste des marchands a pris le pouvoir un petit peu partout en France, puis en Angleterre, puis un petit peu partout comme ça en Europe, elle avait un projet grandiose, hein, qui était celui d'utiliser à fond et de façon illimitée les ressources naturelles finies dont on commençait à apercevoir les possibilités putatives énormes. Elle avait ce projet illimité. Voilà. Donc, effectivement, dans la prise du pouvoir par la caste des marchands, il y avait sous-jacent cette ambition, ce projet grandiose d'utiliser toutes les ressources illimitées. Alors les hydrocarbures d'abord, mais par exemple en 1789, quand les Girondins ferraillent contre les Montagnards pour installer définitivement la caste des marchands, parce que si les Montagnards avaient gagné, c'était la démocratie directe, hein. Bon, c'était le peuple. Bon, et donc là, ils n'avaient pas encore la notion du pétrole et tout ça. Hein. Voilà, c'est venu. Après, alors c'est venu après pendant alors c'est venu pas de France, mais d'Angleterre, pendant la Restauration et pendant toutes les 20 années, enfin des disons, au point historique, on pense pas trop, disons, de 1800, après Waterloo, disons, de 1820 à 1840, 45, 48, la Révolution, on voit pas trop, et pourtant c'est une période extrêmement importante, d'un autre point de vue à nous, parce que c'est la période pendant laquelle les Anglais commencent à découvrir ce qu'ils appelaient le charbon de terre, hein, c'est-à-dire le charbon, simplement celui qui affleurait, qu'on n'ait pas besoin encore de construire une galerie pour aller le chercher, et que à côté des rivières, bon, ils ont pu commencer à utiliser ce charbon. Et puis il y a eu la première fondue au coq par Darby. Voilà, et puis tout est parti de là, la métallurgie, disons, elle a émergé aux alentours de 1800-1840. Hein, donc c'est parti, tout est parti de là. Bon. Et donc les capitalistes, caste des marchands qui avaient commencé à poser leurs jalons pendant la Révolution, première Révolution française. Pendant la Restauration, bon, ils ont continué quand même à fonctionner parce que finalement, cette Restauration, ça n'était qu'une monarchie constitutionnelle. et les capitalistes continuaient à avoir énormément d'influence, ils n'avaient pas encore tout le pouvoir, et puis après en 48 on a fait sauter tout ça, et puis ça a été l'embellie. Donc c'est vraiment lié. Alors en 1789 on ne connaissait pas encore les hydrocarbures, en 48 on les connaissait bien et on savait ce qu'on allait faire. On savait qu'on allait faire avec le charbon, un petit peu plus tard on commençait à trouver un peu de pétrole aux États-Unis, mais faut voir que c'est parti avec le charbon, c'est pas parti avec le pétrole. Hein.
Bien sûr. Oui. Mmh.
Donc on a cet argument qui est de dire c'est pas avec l'oligocratie que on va pouvoir gérer les décroissances. Là, hein, on a ouvert.
Oui, mais on ne te répond pas que l'oligocratie qui ressort, il y aura des bouchers, des paysans, des machins, plein de gens du peuple qui ne sont pas structurellement attirés par la croissance, ce genre de choses. Enfin, c'est une oligocratie spéciale, le tirage au sort, quand même.
Oui, alors, là, il y a le débat.
On parle des arguments.
Oui, alors, tout à fait. On parle de l'oligocratie élective. Bon, l'oligocratie chouard, c'est jamais que chouard, hein, parce que à part lui,
oui,
donc on parle de l'oligocratie élective. L'oligocratie élective qui est, c'est pas un secret, puis c'est très facile à démontrer, qui est tout simplement une courroie de transmission de la caste des marchands. Bon, celle-là, après, donc il faut autre chose. Bon, déjà, on a avancé. Hein. On dit qu'il ne faut pas l'oligocratie élective. Reste quoi ? Reste la dictature, la démocratie par tirage au sort. Voilà. Bon. Et puis, la démocratie directe. Alors, la dictature, on connaît. C'est un système qu'on connaît bien. On peut en parler. Le tirage au sort, on ne connaît pas, parce que c'est pas parce qu'on te dit que Démosthène, là, pendant simplement 2 siècles, il y a eu une démocratie par tirage au sort, et encore, la démocratie grecque qui a duré 300 ans, disons, par tirage au sort, elle était par tirage au sort uniquement pour certaines assemblées, pas pour d'autres, et puis elle fonctionnait avec uniquement la moitié des populations, l'autre moitié, les métèques, ils n'avaient pas le droit à la parole. Bon, donc ça tient pas vraiment la route. Et puis, la démocratie directe, on ne sait pas ce que c'est, puisque c'est une pure vue de l'esprit, c'est une théorie qui, à part quelques peuplades dont aurait pu nous parler Lévi-Strauss s'il était encore là, on ne peut pas se baser sur des exemples vécus. Voilà, donc on est dans la construction théorique complète. Et de ce point de vue-là, on ne peut absolument pas... donner.
Est-ce que les gens de la démocratie par tirage au sort ont affûté leurs arguments pour défendre qu'ils étaient décroissants? Non, ils n'en sont pas encore là.
Alors, le problème, démocratie tirage au sort, on va dire, hein, c'est chouard les gentilvirus.
Est-ce qu'ils parlent décroissants?
Des décroissances, ils ne connaissent pas. Alors, moi, j'ai fait dans le cadre de la série de Malin Décroissance, j'ai interviewé Étienne, je suis allé chez lui là-bas à Tretz, et alors, il faut voir un peu, c'était sur la décroissance. Et il m'a dit, écoute, décroissance, je ne connais pas, mais moi, je veux bien répondre aux questions. Voilà, bon. Et il a répondu sur la décroissance, il ne croit pas une seconde. Alors, il dit à un moment, la croissance, c'est un problème politique. C'est un problème politique, c'est pas un problème.
Pourtant, c'est un ingénieur, il pourrait être.
Il n'est pas ingénieur du tout, il est prof de droit.
De droit.
Prof de droit, oui. Il est prof de droit à Aix. Mmh. Il n'est pas du tout ingénieur, hein. Il est prof. Hein. Il a fait. C'est l'éducation nationale. Non, il n'est pas ingénieur. Hein. Ah non, mais il n'est pas du tout technique là-dessus. Hein. C'est politique. Parce qu'il y a des énergies qu'on veut pas Voilà, parce qu'il y a, il a un peu théorie des complots, il y a des lobbies qui empêchent que ceci, que cela. C'est facile à résoudre, c'est facile à résoudre. Il peut y avoir 20 milliards d'habitants. C'est politique, c'est politique. Voilà, bon. Enfin, bon. Donc, alors, il est possible que depuis, quand même, les débats qu'il a eu avec moi, bon, il le met un peu en veilleuse, il n'en parle pas du tout. Bon, il n'en parle pas du tout parce que, et d'ailleurs, il dit, c'est pas mon domaine, j'y connais rien.
Okay.
Bon. Ouais, ouais. Alors, par contre, oui, on peut je pense qu'il faut interpeller les antivirus sur la décroissance. Hein. Voilà, ils sont très très embêtés avec cette affaire parce qu'ils considèrent que la croissance, les problèmes de la croissance, c'est que les externalités négatives et qu'on peut les régler avec le tirage au sort, quoi, en ce moment. Alors, ceci dit, lorsque on dit démocratie directe, encore une fois, on n'arrive pas avec un truc qui est automatiquement...
C'est le bon choix politique.
Qui est le bon choix automatiquement politique. C'est, que, c'est ce qu'on propose. Bon, c'est-à-dire que s'il y en a d'autres qui proposent autre chose pour gérer une société contrainte, on veut discuter avec eux. On est preneur, en tout cas, du schéma hein, qu'ils vont calculer, qu'ils vont nous présenter. Et on est d'accord pour en discuter avec eux.
Oui, parce que là, toi, ça avait été fait dans le cadre des débats citoyens à Villeurbanne, là, c'est cette proposition-là de démocratie directe.
Ah non, c'était fait bien avant, c'était fait entre 2014 et 2016. Pendant deux ans, on avait un groupe de réflexion qui s'appelait Démocratie directe et résilience. Mmh. Mais alors, oui, ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, on était parti un peu dans l'idée choir sur l'analyse de la Constitution. On a pris la Constitution, article 1, article 2, puis on a commencé à faire des réunions, on a débattu. Et puis, assez rapidement, on en est arrivé à dire, mais attendez, tout est lié, cette Constitution, elle a été écrite par qui? Elle a été écrite par, au départ, les Girondins, tout ça, qu'est-ce qu'ils voulaient faire les Girondins? Ils voulaient, ah oui, c'est vrai, c'est eux qui voulaient installer le capitalisme. Voilà, bon, donc, rapidement, si tu veux, on en est arrivé à faire un lien entre la façon dont était rédigée la Constitution bourgeoise, remarquablement, d'ailleurs, décortiquée par Karl Marx en 1948, et de faire le lien, si cette constitution bourgeoise a été écrite, c'est parce qu'elle a derrière un but économique. Bon, le premier qui a vu ça, c'est Marx.
Ouais.
Parce qu'il a dit, le capitalisme, il se développe avec un soubassement juridique. Et ce soubassement juridique, c'est les constitutions que les gars, ils ont écrites eux-mêmes pour leur propre profit. Sous le prétexte du peuple. Donc, c'est simplement... il n'y a pas de lien direct entre démocratie directe et gestion de la décroissance. Il y a une possibilité, nous semble-t-il, que par un mode d'exercice du pouvoir, c'est-à-dire surtout de la décision législative, par la grande pluralité des citoyens, on ait le maximum de chances de gérer au mieux une configuration contrainte qui n'est pas piquée des hannetons, quoi. Voilà, c'est ça qu'on dit, pas plus.